Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci pour le Centre de la République de m'avoir invité. Je pense qu'il y a 2 semaines que vous m'avez demandé, ou il y a un peu plus, donc j'ai accepté parce que je trouve que le format est très intéressant d'avoir un débat. Je trouve que dans le milieu académique, ça se fait pas assez, mais j'ai quand même sous-estimé un peu le travail. Donc je vais essayer de parler du droit de grève, mais je dirais pas de tout, parce que c'est un domaine quand même très vaste. Et donc, bon, dans le débat, il y a des autres éléments qui peuvent ressortir et sur lesquels on peut débattre, discuter, échanger des vues. En fait, la question que vous avez posée, la première question est de savoir si c'est une question juridique ou une question plus politique, politico-juridique. Je vais surtout me focaliser sur l'aspect juridique, sans naturellement donner quelques points de vue qui vont un peu au-delà de ça. En tant qu'introduction, en fait, vous avez déjà dit dans l'introduction, hein, que disent les défenseurs du droit de grève sur la grève. C'est en fait que la grève tend à compenser, mais je mettrai ça entre guillemets, la domination économique. Pourquoi entre guillemets, parce que bon, parfois ça peut compenser, parfois pas du tout, parfois ça peut peut-être même avoir plus d'effet. Hein? Je pense pas que c'est uniquement les défenseurs du droit de grève qui disent ça. Je pense que c'est en fait la nature du droit social qui mène à cette conclusion. Pourquoi? Et vous l'avez également dit lors de l'introduction. Lors de l'introduction, le droit social n'est en fait rien d'autre que essayer de compenser l'inégalité structurelle qui existe au sein de la relation de travail entre l'employeur qui a un pouvoir dominant, qui a la domination économique, et le travailleur qui est l'autre partie. Et donc, si on parle de cette concertation, il faut voir quels sont les moyens qu'ont les parties pour effectivement pour mettre en œuvre. Et donc, je ne vais naturellement pas recenser tous les moyens qu'il y a un employeur pour faire valoir et mettre en œuvre sa domination économique, hein, mais j'en reviens, mais ils sont très nombreux. Et c'est quelque chose que je pense qu'on oublie souvent. On focalise sur le droit des grèves, sur la grève, mais on ne voit pas, même pendant des conflits, quels outils, quels moyens un employeur a pour effectivement mettre la pression sur les travailleurs pour ne pas partir en grève, pour ne pas prolonger leur grève, pour dissuader des personnes de faire grève. Mais donc, j'en reviens. Et donc, le droit du travail cherche effectivement à compenser, dans une certaine mesure, ça reste très faible, cette inégalité, cette domination économique. Et donc, du côté des travailleurs, le seul instrument effectif, et je dis donc 3 mots, seul instrument effectif, c'est effectivement la grève. C'est vraiment mon opinion, parce que, comme vous l'avez dit, s'il y a une négociation collective, par exemple, et on fait valoir des revendications, mais l'employeur dit, bon, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec vos revendications, il peut en fait faire ce qu'il veut et il n'y a pas vraiment un moyen effectif, hein, pour y remédier. Et donc, qu'est-ce que fait la grève? La grève entraîne un dommage économique. Un dommage économique, c'est le but ou la conséquence de la grève. Hein, on peut encore en discuter. Mais en tout cas, ce n'est que le dommage économique qui peut faire changer la balance, qui peut faire changer cette relation de pouvoir, rapport de force, je dirais. Hein. Même Blampin, professeur Blampin, avec qui je suis en principe, non pas en principe, mais souvent en désaccord, il dit la même chose. Les relations de travail sont les rapports de force. Et c'est exactement ça, ce que je vais vous illustrer. Et ce n'est pas uniquement moi. Donc, dans un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers, parce que beaucoup de litiges concernant le droit de grève se passent devant les tribunaux civils, devant les cours d'appel, et pas devant les tribunaux de travail. J'en reviens. La Cour d'appel d'Anvers a dit, dans un litige où une compagnie, une banque, a posé une demande de dommages intérêts pour récupérer 250 000 euros à cause d'une grève. Hein. La Cour d'appel d'Anvers a dit, en fait, la grève et les piquets, hein, parce que c'est accessoire, j'y reviens aussi, tendent en fait de changer la balance de pouvoir, que les revendications que posent les travailleurs sont plus entendues et donc le contrôle du pouvoir exécutif ne peut qu'être marginal. Hein. Et donc, ce n'est qu'en faisant la grève qu'on peut un peu faire pencher et changer cette balance. Donc, ce n'est pas uniquement une idée qui est mise dans la doctrine, mais qui est aussi reprise par la jurisprudence, ou une partie, en tout cas, de la jurisprudence. Qu'est-ce que je devrais vous dire aussi à cet égard? Quels sont les autres droits des travailleurs? On a un droit à l'information, un droit à la consultation, un droit d'avis, pour émettre un avis. Hein? Et donc, ce n'est pas uniquement les travailleurs, mais surtout les organes de représentation, donc conseil d'entreprise, CPPT, délégation syndicale. Mais les termes même disent que ça reste marginal, c'est-à-dire que ça ne va jamais pouvoir influencer de façon définitive et de façon importante la décision d'un employeur qui ne veut pas. Et donc, si on compare par exemple avec les autres pays, et peut-être dans le débat il y a des discussions là-dessus, on voit que dans des autres pays, la situation est quand même un peu différente. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas même, les organes de concertation ont beaucoup plus de pouvoir qu'en Belgique. Je ne dis pas que tout se passe mieux et que le droit social est brillant dans ces pays, mais quand même, si on met tout dans la balance, il faut aussi voir comment la concertation collective et comment les relations collectives de travail se passent dans les autres pays. Et j'ai cité trois pays limitrophes. Et donc, si on dit le droit de grève, c'est en fait un droit qui consacre des rapports de force, qui en donne une voie juridique, je dirais, qui consacre en droit ces rapports de force. Hein. On doit un peu voir comment ces rapports de force sont évolués et comment le droit de grève, en fait, à chercher son chemin, je dirais, à essayer d'être entendu. Parce qu'au début, et c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui, le droit de grève n'était que la cessation du travail. Hein? Vous l'avez illustré avec le bracelet qu'on peut porter. On dit, parfois encore aujourd'hui, et des observateurs, la grève, ce n'est que cesser de travailler, c'est rien d'autre. Hein. C'est un peu le concept dans le 19e siècle. Naturellement, c'était encore beaucoup plus pire. Hein. Avec la constitution belge, il n'y avait pas de droit de grève, il y avait juste la liberté d'association. Naturellement, directement après, les travailleurs ont dit, bon, s'il y a une liberté d'association, et si on peut s'associer, on peut aussi faire des actions et tout ça. Mais, comme vous le savez, on ne va pas répéter toute l'histoire ici, ces actions ont été réprimées violemment par l'État, par les employeurs. Et donc, il y avait aussi une base juridique, naturellement, pour exercer, disons, cette répression, c'est-à-dire le délit de coalition, par après, quand ça a été abrogé en 1867 par l'article 310 du Code pénal, donc du Code pénal, où en fait était interdit de commettre des violences, proférer des injures ou des menaces, ce qu'on pourrait encore comprendre, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de limite, pas du tout, hein, mais aussi de ne pas se rassembler près des établissements où s'exerce le travail et de porter atteinte à la liberté des maîtres et des ouvriers. Hein. Et donc, c'est important de connaître cet article parce que je pense qu'avec les propositions actuelles, on va s'approcher presque de cet article. Si ce n'est pas de façon pénale, de façon civile, ça ne change pas grand-chose, mais en fait, l'objectif, l'enjeu est un peu la même. Et ces dispositions pénales, en théorie, ils n'étaient pas uniquement applicables, et je parle surtout de la dépolluation aux travailleurs, mais aussi aux employeurs. Mais bon, de nouveau, comme on ne connaît pas tous les moyens de domination économique, on ne connaît pas les moyens ou la façon dont les employeurs s'organisent. Et donc, les employeurs ne s'organisent pas de la même façon des travailleurs. Donc, si les travailleurs s'organisent, ils descendent dans la rue, ils font la grève. Si les employeurs veulent faire une coalition pour diminuer les salaires, ce qui était interdit, donc avec le délit des coalitions, c'était beaucoup plus caché, on ne savait pas. Et donc, on ne peut pas s'étonner que les seuls qui étaient condamnés, poursuivis dans le 19e siècle, c'était des travailleurs. Il ne s'agit pas des dizaines, des centaines, mais des milliers. Et ça allait très loin, parce que si on parle des violences, des injures ou des menaces, les termes ont une importance. Moi, je trouve qu'il faut les comprendre dans le sens pénal. On peut aller beaucoup plus loin, et il y a, à l'époque, des tribunaux correctionnels qui ont... dénomination à ce moment, mais les tribunaux qui l'ont condamné les travailleurs parce qu'ils ont haussé les épaules quand un non-gréviste voulait entrer à l'entreprise. Il y a des autres exemples. Et donc, on peut interpréter naturellement cet article de façon très extensive. Cet article a été abrogé en 1921 et donc plus de pénalisation de la grève. De nouveau, est-ce que la grève était reconnue? Je ne dirais pas, parce que on pouvait être licencié pour le simple fait de faire grève. La police intervenait aussi, mais donc il y avait encore, un vacuum juridique, un vide juridique entre 1921 et 1967, 1981. Pourquoi ce n'est qu'à ces deux dates que la Cour de cassation a émis deux arrêts importants. 67, la grève n'entraîne pas la fin du contrat de travail, mais n'est qu'une cause de suspension. Et 81, on va dire qu'il n'y a pas de différence entre une grève de solidarité professionnelle ou une grève politique. C'est un premier principe. Et deuxième principe, il n'y a pas de différence entre une grève spontanée et une grève annoncée. Tous les deux sont légales, légitimes. Il y a encore un arrêt important de 30 janvier 1997 qui va en fait élargir la définition de la grève. Ce n'est pas uniquement de nouveau la cessation du travail, mais c'est aussi le fait de former des piquets. Le fait de former des piquets pour autant qu'ils restent pacifiques. Et donc on voit en fait que le droit de grève, en tout cas au niveau belge, c'est un droit assez jeune. Ça peut étonner, parce que tout le monde pense, et vous l'avez dit aussi au début, on a essayé de limiter le droit de grève dès le début. Mais dès le début, le droit de grève n'existait pas. Ce n'est que, je dirais, en Belgique, à partir de 1981, que ça a été reconnu pleinement. Et puis, naturellement, il y a l'influence du droit international, qui vient à partir du... après la Deuxième Guerre mondiale, avec au niveau de l'OIT deux conventions 87 et 98 sur la liberté syndicale, mais dont la grève est dérivée. Et il n'y a pas uniquement ces conventions, mais aussi l'interprétation, ce qui est très important, des comités qui surveillent l'application de ces conventions et qui en fait font faire une interprétation extensive, progressiste, comme on veut, et de ce droit de grève. Un des principes dont on va encore parler, c'est en fait qu'on dit que la grève ne peut qu'être limitée dans des circonstances exceptionnelles. Et, par exemple, ça veut dire si on utilise la violence ou l'intimidation. On voit immédiatement le parallèle avec l'article... non, on voit immédiatement, en fait, le parallèle avec un peu le raisonnement qui existe en Belgique, je vais en revenir, où aussi la Cour de cassation, en 97, a dit un piquet de grève est légitime si ça reste pacifique. Hein. Il y a entre autres le professeur Jamoul de l'ULG qui a dit qu'il y a une parfaite convergence entre ce droit international et l'arrêt de la Cour de cassation. 61, très important, la charte sociale européenne, qui n'est que ratifiée en Belgique en 90. Donc ça prend 30 années. Et qui parle effectivement pas du droit de grève, mais du droit à l'action collective. Et je pense que c'est important d'utiliser cette terminologie. Pourquoi ? Ça permet à éviter le débat sur la grève, ce n'est que la cessation du travail. L'action collective, ça va beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup plus correct de parler de ce droit, je pense. Ces mots couvrent mieux de quoi on parle. Cet article 6.4 de cette charte a une application directe dans l'ordre juridique, dans l'ordre interne belge. Et de nouveau, il y a un comité européen des droits sociaux qui en fait une interprétation conforme à les comités au sein de l'OIT. Je ne vais pas parler des conventions au niveau des Nations Unies parce qu'ils ne présentent pas vraiment une plus-value. Mais j'en dirai un mot sur la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, la Convention européenne des droits de l'homme ne prévoit pas un droit de grève. Dans l'article 11, on ne parle que de la liberté syndicale. Et donc, on a dû attendre, vraiment attendre 2011, avant que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que le droit de grève est une composante de la liberté syndicale et en fait un moyen essentiel, important, hein, de cette liberté syndicale. Et on voit donc qu'il y a un lien entre les droits fondamentaux, qu'on ne peut pas détacher le droit de grève des autres droits fondamentaux, mais qu'il y a un lien évident avec, en tout cas, la liberté syndicale. Tout cela pour vous dire que... À mes yeux, on a affaire avec un corpus vaste, effectivement, mais cohérent. Il y a une cohérence dans, si on regarde le droit belge et le droit international. Deuxièmement, de nouveau, on parle d'un droit jeune. On a affaire avec un droit qui est reconnu après la Deuxième Guerre mondiale, mais encore beaucoup plus récemment. Et donc, quelle est la conséquence de ce constat ? C'est en fait que il existe encore un tas d'autres actions où la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée. Pour donner un exemple, la grève tarif zéro. C'est parfois un reproche vis-à-vis des syndicalistes. On dit, vous ne faites pas des grèves tarif zéro. Mais bon, la jurisprudence n'est pas encore prononcée. Et il y a des risques au niveau de la responsabilité, au niveau de l'exécution du contrat de travail, hein, si on fait ces actions. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ? C'est un droit jeune qui doit encore se développer et il y a encore des tas d'autres actions où la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée, où on n'est pas à l'abri d'un certain non-reconnaissance. Et donc, avant de limiter, il faut encore protéger certaines formes d'action. Troisièmement, et je fais de nouveau le parallèle avec les droits fondamentaux, un des principes importants concernant les droits fondamentaux, c'est que il ne suffit pas de reconnaître ça en théorie, mais il faut qu'en pratique, il puisse s'exercer. Donc, c'est un principe important de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut faire la parallèle avec la liberté d'expression. Cette liberté n'est pas uniquement tout le monde a droit à sa parole. Je veux aussi dire on peut faire une manifestation, on peut faire un discours. Hein? Et donc, il y a plein d'autres moyens, plein d'autres façons de mettre en œuvre cette liberté. Et ça ne se résume pas à une définition très restreinte, très limitée. Sinon, on vide, selon moi, les droits fondamentaux de leur contenu. Il y a encore deux autres principes sur lesquels je veux focaliser. Principe de base des droits fondamentaux. Le premier est, il ne faut pas uniquement les respecter et les protéger, mais il faut aussi les promouvoir. C'est, en anglais, on parle d'un obligation to respect, protect and promote. Donc, en fait, c'est un principe qui est très présent au sein de la jurisprudence de Strasbourg. Et donc, il faut mettre en œuvre, il faut créer des mécanismes pour mieux promouvoir ces droits fondamentaux. Dernièrement, mais je l'ai déjà dit, et donc les droits fondamentaux sont liés. Si on organise un piquet, c'est pas uniquement pour ne pas travailler, mais c'est aussi pour utiliser la liberté d'expression. Et donc, en conclusion, je dirais qu'il y a un corpus cohérent, il y a une interdépendance entre les droits fondamentaux qu'on ne peut pas oublier et qu'on doit garder en tête. Si on demande, pose la question, faut-il limiter ? Il faut d'abord savoir, est-ce que le droit n'est pas encore limité ? Et de nouveau, c'est un débat qui ne se fait pas beaucoup, mais il y a déjà des limites actuelles. Directement après la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a adopté une loi de 48, encore en vigueur, sur les prestations d'aide république, et donc dans des secteurs vitaux, il y a des réquisitions. On parle des hôpitaux, l'industrie pétrolière et tout ça. Hein? Et donc, on parle parfois d'un droit absolu, un droit sans limite, hein? Mais on est loin de là. Dans le secteur public, centre de droit public, secteur public, quand même mis un mot, il y a des protocoles au sein de la SNCB, au sein des prisons, qui ne sont pas uniquement applicables aux syndicats, qui doivent faire un préavis avant de pouvoir partir en grève, mais qui peuvent même avoir des conséquences pour des travailleurs, des fonctionnaires, de façon individuelle. Et donc, si on parle de service minimum, c'est plutôt, on essaye de partir de ce protocole pour encore imposer des nouvelles obligations pour faire de ces obligations, pour les rendre plus restrictives. Mais ils existent déjà et sont déjà restrictives dans une certaine mesure, je peux en revenir. Également dans le secteur privé, il y a les conventions collectives de travail qui prévoient que des syndicats doivent faire des préavis avant de pouvoir partir en grève. Il y a des autres obligations, j'en parlerai pas plus. Parce que si on parle actuellement du droit de grève, la limite la plus importante et ce qui ressort le plus, c'est la jurisprudence en référé. En fait, il n'y a donc pas de loi belge sur la grève, mais quand même, on doit faire face à une jurisprudence qui va quand même limiter fortement le droit de grève dans la définition que je viens de vous donner. On pouvait s'étonner parce qu'en fait, je viens de vous expliquer, le corpus est assez cohérent. Dès le moment qu'il y a la violence ou l'intimidation, on peut limiter le droit de grève. Mais cette jurisprudence va beaucoup plus loin. Je vous donne quelques exemples de ma pratique. On va interdire, par exemple, je cherche les mots exacts, d'entraver ni directement ni indirectement le fonctionnement normal de l'entreprise. Donc je laisse vous penser deux minutes à cette phrase. Donc on ne peut pas entraver le fonctionnement normal de l'entreprise. Sinon, il y a une astreinte qui peut être infligée à votre égard. On ne peut pas faire des actions dans les alentours de 10 km autour d'un gare. Pas d'action. Aucune action dans les alentours de 10 km autour d'un gare. On a même interdit la grève même. Avec en 2000, avec le mariage de Philippe et Mathilde, on a interdit la grève même, elle-même. Et donc, les tribunaux de première instance, parce que c'est là où se joue le contentieux, ils se sont intervenus à partir des années 80. Il y a différentes raisons. Les tribunaux de travail se sont déclarés incompétents parce qu'en fait, dans le code judiciaire, ils disent qu'on ne va pas intervenir dans les conflits collectifs de travail. Il y a aussi, naturellement, à partir des années 80, la crise économique qui donne naissance à beaucoup plus de conflits. Il y a l'astreinte qui se voit en droit belge. Donc, avant 80, il n'y avait pas d'astreinte. Donc, il y a plusieurs raisons. Et donc, les tribunaux de première instance vont, sur requête unilatérale, émettre des ordonnances presque pas motivées, dans la plupart des cas, et interdisant un grand nombre d'actions, d'actions liées à la grève. Et quel est le fondement juridique? Quelle est la base légale qu'utilisent ces tribunaux de première instance, ces présidents même des tribunaux de première instance? On va vite reprendre un peu les arguments du banc patronal, dire que toutes ces actions n'ont rien à faire avec le droit de grève, mais ce sont des actes détachables, des actes qui ne sont pas accessoires, qui n'ont rien à faire avec la grève, mais qu'on peut détacher de la grève. Et donc on peut interdire, parce qu'ils n'ont rien à faire avec un droit fondamental. Parfois, on va encore motiver les décisions en utilisant les droits des autres, le droit de l'employeur, la liberté de l'industrie, le droit du travail. Et les droits des autres, ils sont assez nombreux. Donc les juges reprennent ces demandes sans regard critique. Pas toujours, mais je dirais 50-50 peut-être, mais si on regarde les 50%, ces jugements sont, dans la plupart des cas, critiquables. Et dans les faits, ces interdictions reviennent parfois à une réintroduction de l'article 310. Je viens de vous le dire, pas par la voie pénale, mais par la voie civile. Naturellement, l'effet d'un astreinte, je ne sais pas qui a déjà dû faire face à une astreinte, mais le résultat est parfois la même. Et c'est de nouveau pas moi qui l'ai dit, mais c'est professeur Van Achter, aussi de la KUL, qui a dit ça dans un article en Revue du droit social. Il y a un élément important, parce qu'on peut naturellement changer la balance au niveau des rapports de force, mais on peut aussi changer la balance au niveau du droit. Et à partir de 2008, je dirais, les syndicats ont dit on va quand même faire une tierce opposition contre ces requêtes unilatérales, contre ces ordonnances plutôt, plus correctement, qui ont été rendues sur requête unilatérale. Parce que auparavant on disait, oui, la jurisprudence en référé, ils interdisent la grève, ils interdisent les actions, et donc c'est en fait la jurisprudence majoritaire, et on va en fait faire toute une histoire là-dessus. Mais c'était la jurisprudence rendu sur les quêtes unilatérales, donc il n'y avait pas de contradictoire, il n'y avait pas de débat contradictoire. Et donc, si on compare la jurisprudence après 2008 avec celle d'avant, on va quand même voir qu'il y a une nette différence. Pas toujours, mais il y a quand même une différence dans l'ensemble. Où les tribunaux, les cours, prennent beaucoup plus en compte le droit international, les droits fondamentaux, et ne se contentent pas à faire un copier-coller des demandes de l'employeur. Dans la même période, les syndicats ont déposé une plainte collective au Comité européen des droits sociaux qui siège donc à Strasbourg et qui surveille l'application de la Charte sociale européenne. Et ce comité va condamner la Belgique parce que pour cette jurisprudence en référé, parce que ces ordonnances ne prennent pas en compte et les juges ne prennent pas en compte le fait s'il y a eu des violences, des intimidations ou pas, ils vont pas voir, ils vont pas vérifier si en pratique il y a quelque chose qui se passe. Ils vont même à titre préventif interdire certaines actions avant qu'une action a même eu lieu. Et donc il y a une condamnation qui est parfois, mais presque pas, repris texto dans la jurisprudence, mais qui est utilisée par le banc syndical. Résumons, à mes yeux, est-ce qu'on a affaire avec une situation satisfaisante? Non. Au niveau de la jurisprudence en référé, j'espère qu'un jour la Cour européenne des droits de l'homme va quand même aussi condamner ces pratiques de requêtes et procédures unilatérales, parce que bon, l'effet est beaucoup plus grand qu'une condamnation par le Comité européen des droits sociaux. Et la Cour européenne des droits de l'homme prend en compte les condamnations qui ont été promulguées par les autres comités au niveau international. Mais je pense que la situation est la moins mauvaise dans le contexte actuel. Parce que si on parle des limites futures, j'ai dû utiliser deux slides. Trois peut-être ? Non, deux. Et même, je n'ai pas pu mettre tout, mais l'essentiel. Tout d'abord, et c'est donc pas mis sur le slide, c'est la question de la définition. Si on va adopter une loi, est-ce que c'est pour définir le droit de grève? Parce que définir, ça peut être pour protéger, mais ça peut être aussi pour limiter, pour exclure. Hein? Et dans le contexte actuel, je pense que ça ne va pas être dans le premier sens. Quelle pourrait être la critique, le reproche vis-à-vis cette une limitation au niveau de la définition, je pense, je vous ai dit, c'est en fait que la grève est beaucoup plus que la cessation collective du travail. C'est aussi des autres actes reconnus comme des composants, comme des actes accessoires du droit de grève, des piquets, des autres actions qui peuvent être comprises comme une application du droit à l'action collective. Deuxièmement, l'objet, le motif. Et donc, en 81, la Cour de cassation a dit qu'il n'y a pas de différence. Toutes les grèves sont légitimes, légales. On sait très bien qu'en 2014, avec le mouvement de grève en automne, il y a plein de la part du gouvernement ou des partis politiques, ils ont dit oui, ça ne va pas, ces mouvements, parce qu'il y a des grèves politiques. C'est plutôt un discours, mais si on traduit ça en droit, ça veut dire qu'en fait on va demander, on va en fait dire que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été un bon arrêt et qu'il faut une limitation, comme ça existe en Angleterre par exemple, où on a uniquement une grève professionnelle qui est possible, uniquement une grève au sein de l'entreprise, et donc dans le bâtiment H, mais pas le bâtiment A de l'ULB, parce que sinon c'est interdit et il y a des dommages intérêts à payer. Et à juste titre, un avocat patronal, Cranings de Stibbe, a dit en Angleterre, un droit de grève n'existe pas. Et il a raison. Il a tout à fait raison. Et on va encore restreindre ça. Maintenant, on va dire qu'il faut un piquet. Et c'est la proposition de Cameron, maintenant Premier ministre britannique. Un piquet, maximum 6 personnes. Si vous allez faire une action, vous voulez proposer ça et communiquer par Facebook ou Twitter, il faut faire un préavis de 2 semaines. Et donc, 2 semaines avant que vous mettez quelque chose sur Facebook ou Twitter et plein d'autres choses. Et donc, ça ne va pas encore assez loin en Angleterre. On va encore essayer de restreindre beaucoup plus des votes. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. La proposition la plus qui va certainement faire le tour et qui va être de nouveau sur la table à partir du 1er janvier, c'est la proposition de service minimum, où on veut au sein de la RTB, au sein de la SNCB, des prisons et Belgo Control, instaurer un service minimum. En fait, on ne parle pas de service minimum dans l'accord gouvernemental, on parle de service garanti. Il faut garantir qu'il y a un service pendant grève. Donc, de nouveau, réfléchissez une fois, si on doit garantir un service, pas un service minimum, mais le service, je pense que le droit de grève est de nouveau vidé de sens. La question se pose, est-ce qu'il y a une telle différence entre le secteur public et le secteur privé? naturellement, le secteur public, on touche au public. Il y a le public qui veut un certain service, tandis qu'au privé, ils font aussi un service, mais il est plus loin de l'exercice de l'activité économique. Mais pourquoi les travailleurs ont moins de droits au sein du secteur public qu'au sein du secteur privé? C'est une question pour laquelle j'ai pas, à laquelle je n'ai pas une réponse. Et je vous ai déjà dit, il y a des limites dans ce secteur. Ce qui est aussi assez interpellant est qu'on a posé le principe dans l'accord gouvernemental, mais il n'y a aucune concrétisation. On va dire, c'est les partenaires sociaux, en fait c'est les syndicats, parce que l'autre partenaire c'est l'État, en beaucoup de cas, ou c'est la SNCB, mais avec des actions majoritaires au sein de l'État. Donc, c'est à vous de faire une proposition, et si vous ne le faites pas, on va instaurer notre proposition. Et donc, reste à voir ce que ça veut dire exactement. Sur le contenu, et s'il faut balancer les intérêts, je laisse à collègue Van d'en parler, parce que c'est en fait plutôt de sa domaine, donc je peux en répondre par après. En fait, la question se pose, est-ce que on peut dire en tant que juge ou en tant que législateur, cette revendication, vous pouvez poser en tant que syndicat, et cette revendication, vous ne pouvez pas poser. Selon moi, c'est une pente glissante. Pourquoi? Si on fait la comparaison avec la liberté d'expression, et donc ça revient à dire, ça vous pouvez dire, ça vous ne pouvez pas dire. Je ne vois pas la grande différence. Et donc, de nouveau, parfois, si on parle de droit de grève, c'est que comme c'est un droit fondamental inférieur qui n'a pas la même valeur que les autres droits fondamentaux, et c'est quand même assez interpellant. Qui peut prendre l'initiative pour faire une action? Est-ce que c'est un syndicat ou est-ce que c'est le travailleur? Actuellement, c'est le travailleur. C'est un droit de l'homme, c'est un droit individuel. Le travailleur peut partir en grève, ça peut être reconnu, cette action par le syndicat ou pas, mais ce n'est pas le syndicat qui doit, en tant qu'organisation, déclarer la grève. Et donc, de nouveau, le service minimum, ça peut aller dans ce sens qu'on va plutôt demander au syndicat de l'organiser au lieu des travailleurs même, et on met à mal, selon moi, le droit fondamental. Mais le débat se focalise naturellement plutôt sur les moyens, sur les formes que prennent les actions. Si on consacre le droit de travailler, ça veut dire qu'un non-gréviste pourrait dire, moi, mon droit individuel est que je peux rentrer à l'entreprise pendant et je peux avoir accès pendant une grève. Pourquoi ça pose problème? Parce que, en fait, si la grève a pour objectif de causer un dommage économique, si on est remplacé en tant que travailleur par des autres travailleurs, des cadres, des sous-traitants, des autres, oui, l'objectif de la grève n'est pas rempli et l'employeur n'a pas d'incentive, incitant pour effectivement changer son point de vue. Parce qu'en fait, l'activité économique se déroule sans problème. Ici, j'utilise toujours l'exemple aussi, un deuxième contre-argument, c'est l'exemple que j'utilise, c'est toujours l'exemple des 101 techniques. Je dis que l'employeur a 101 techniques pour entraver une grève. Qu'est-ce que c'est, par exemple, et j'ai rencontré ça dans la pratique, dire à des personnes avec des contrats de temps partiel, si vous faites la grève, on ne va pas vous donner un contrat de temps plein. On va donner des primes, une bouteille de champagne, aux ceux qui ne font pas participer à la grève. On va faire des visites domiciliaires, c'est comme avec l'ONEM un peu, mais donc des visites domiciliaires, où on va venir en tant que cadre ou une autre personne à part de la direction pour demander comment ça va pendant la grève et que c'est quand même mieux de venir travailler, et on va utiliser l'occasion d'aussi parler avec l'époux ou l'épouse du travailleur. Et donc, la question se pose, est-ce que toutes ces non-grévistes sont des vrais non-grévistes ou ce sont des gens qui sont parfois contraints à travailler à force de perdre leur contrat ou d'avoir des autres problèmes avec leur employeur. Et finalement, il y a naturellement toute la discussion sur le droit individuel et le droit collectif, parce que, si on veut aller travailler, c'est un droit individuel, le droit de grève aussi, mais ça s'exerce collectivement. Mais par après, si la grève donne certains fruits, tous les travailleurs vont en profiter, et donc aussi le travailleur non gréviste, il ne va pas refuser par après qu'il ce que les travailleurs du syndicat ont obtenu. Il y a aussi la possibilité des limites judiciaires, hein, si la jurisprudence en référé va encore être plus restrictive qu'elle est à ce moment. Et au final, j'en termine. Faut limiter le droit de grève, c'est poser la question limiter pourquoi. L'argument principal pour limiter le droit de grève est la protection des droits des autres. Je vous ai déjà dit, les autres sont nombreux, l'employeur, les grévistes, les usagers. Sur les non-grévistes, j'ai parlé, l'employeur, est-ce qu'il peut dire « mon droit est mis en péril » Naturellement, c'est mis en péril, comme les droits de tous les autres. Pendant une grève, le droit de grève entraîne une restriction, une limitation temporaire des autres droits, par sa nature. Ce n'est pas un droit qui s'exerce dans le vide, qui n'a pas d'influence, parce qu'elle n'a pas d'influence, elle n'a pas de raison d'être non plus. Et donc, faire valoir les droits des autres, selon moi, c'est très difficile à le faire sans toucher au nœud, au cœur du droit de grève. J'ai mis ça aussi dans la carte blanche et dit, moi je suis d'avis que les syndicats ont tout intérêt de parler avec des autres travailleurs, avec des usagers, des navetteurs, pour mieux communiquer, pour faire tout ça. Hein. Mais c'est tout un autre discours de dire, on va limiter de façon juridique certaines actions, certains droits. Et je terminerai vraiment avec un appel être à la modestie, c'est-à-dire, c'est vraiment ma profonde conviction qu'il ne faut pas juridiser chaque débat. Ce droit, ce domaine, c'est par excellence un domaine où les rapports de force jouent. En fait, je vous ai dit tout au début, le droit de grève, ce n'est que rien d'autre que la consécration en droit des rapports de force. Et donc, remettre en cause le droit de grève, c'est selon moi remettre en cause la liberté syndicale. Remettre en cause la liberté syndicale et remettre en cause la liberté d'association. Remettre en cause ces droits et libertés, c'est aussi remettre en cause la démocratie. Selon moi, il ne faut pas limiter les droits et libertés, mais limiter certaines limitations. Ce n'est pas le slogan, mais je pense que c'est l'enjeu du débat actuel et je vous remercie.